17e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2019. Combien de COP encore ? Bilan et perspectives stratégiques du mouvement climat. Une table ronde avec Geneviève Azam, Léna Lazare de Youth for Climate, Damien d'Extinction Rébellion, Claude de Radiaction, animé par Maxime Chédin. Une table ronde organisée avec la revue Terrestre.
Bonsoir, merci d'être là. Donc on organise cette table ronde et ce moment de discussion sur le sujet « Combien de COP encore ?» Bilan et perspectives stratégiques du mouvement climat. Alors on s'est dit qu'on allait éviter de faire un premier tour de parole de présentation qui serait peut-être un peu long. Je vais donc très brièvement présenter les invités qui vont parler, avec qui vous allez pouvoir échanger. Je pense que l'idée, ce serait que on a prévu d'aborder trois grandes questions, mais c'est juste un programme provisoire. Vous êtes tout à fait en droit de le perturber si vous le souhaitez. Donc de faire un petit tour de table à chaque fois et ensuite de vous passer la parole pour qu'il y ait des échanges, des questions sur chacune de ces rubriques. Alors, à côté de moi, c'est Geneviève Azam, qui est notamment membre de la revue Terrestre, une revue d'écologie en ligne qui a un an d'existence que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui est autrice récente d'une lettre à la Terre, c'est ça, hein, dans la collection Anthropocène. Damien, qui est membre de Extinction Rébellion Bordeaux. Et j'ai deux Claude qui sont membres de Radiaction. Donc Radiaction, certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas. C'est un mouvement que vous allez présenter vous-même, mais on peut dire que c'est un jeune mouvement centré sur la question du nucléaire, anti-nucléaire. Voilà. Alors, on avait pensé parler de trois choses. La première, c'est... Et moi, je suis Maxime Chédin, et je suis membre de la revue Terrestre aussi, et voilà, et un peu philosophe de formation. Et là, je vais juste faire circuler la parole, présenter un peu et être facilitateur, comme on dit. Alors, on avait prévu de parler de trois thèmes, trois sous-questions là dans ce débat. D'une part, la question de l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis des initiatives, des propositions, des réalisations même de l'écologie qu'on peut appeler étatique ou gouvernementale. Je vais préciser ça dans un instant. D'autre part, le rapport ça nous amènera vers ce deuxième thème plus général, mais qui travaille beaucoup le mouvement écologiste et climat depuis plusieurs mois, le rapport aux institutions, le rapport des luttes écologistes aux institutions et à l'État. La question du localisme, du municipalisme notamment. Et enfin, on avait envie de parler d'une interrogation qui, elle aussi, est beaucoup partagée depuis un an, notamment depuis l'avènement du mouvement des Gilets jaunes, à savoir celle de l'articulation entre les luttes écologistes et climatiques et les luttes sociales. Voilà. Alors, pour dire juste deux, trois mots d'introduction sur le thème qui nous occupe ce soir, bilan et perspectives stratégiques du mouvement climat, en un sens, on peut dire que pour certains d'entre nous, et même pour beaucoup, le mouvement climat est, pour ainsi dire, né il y a un an, en septembre 2018. Alors, c'est factuellement faux, hein, bien sûr. Le mouvement climat est beaucoup plus ancien. Il était présent notamment dans les COP bien avant, sous d'autres formes. Le mouvement environnementaliste est lui aussi beaucoup plus ancien, mais il y a quelque chose qui s'est quand même passé l'été dernier, enfin l'été d'il y a un an, dont vous avez, je pense, toutes et tous le souvenir. C'était cet été absolument caniculaire et catastrophique au sens littéral du terme, partout dans le monde. Avec ces incendies monstres en Californie, les sécheresses incroyables en Australie, les feux de forêt fous en Sibérie, la canicule en France. Et donc tout d'un coup, ce sentiment brutal que le réchauffement climatique qu'on percevait jusqu'à présent, en tout cas nous, dans nos pays tempérés, relativement épargnés, sous la forme de courbes, de graphes venus du GIEC devenaient quelque chose de sensible, quoi, de sensoriel très fort. Et la démission de Nicolas Hulot et les premières marches citoyennes pour le climat en septembre, octobre 2018, et qui tout de suite sont critiquées, alors qui à la fois rencontrent beaucoup de succès, mais qui sont tout de suite critiquées comme étant des marches trop naïves, trop inoffensives, dans l'attente d'un pouvoir d'État qui resterait absolument maître du jeu. Et là-dessus, le mouvement des Gilets jaunes qui arrive, qui à la fois va percuter le mouvement climat en lui imposant une question sociale qui n'était pas vraiment dans l'agenda de la question des baisses des émissions de CO2. Et à l'inverse, le mouvement écologiste qui va rétroagir aussi sur les revendications initiales du mouvement des Gilets jaunes au fur et à mesure des mois. Et là-dessus, comme une accélération du temps dans les mois qui suivent, avec la création en Angleterre d'abord et quelques mois plus tard, entre décembre et mars, mais Damien nous en reparlera peut-être, d'Extinction Rébellion, qui va apporter des formes de ce qui apparaît comme des formes de radicalité nouvelles, et le retour d'une désobéissance civile qui avait déjà été expérimentée il n'y a pas si longtemps, y compris dans les luttes contre les OGM, mais qui avait été pour ainsi dire oubliée et qui refait surface avec cette idée du blocage de l'économie qui constitue un point de rencontre entre des revendications des Gilets jaunes et du mouvement climat. Voilà, et puis donc le développement de ce mouvement, et puis un an après, où est-ce qu'on en est? Mais on en est à finalement ce paradoxe que ce qui est arrivé, c'est pour ça que je parle, on peut parler un peu d'accélération du temps, c'est que ce qui en mars-avril apparaissait comme un mouvement ultra radical d'écologie, Extinction Rébellion, est taxé de modérantisme excessif lors de ces dernières actions, notamment la semaine d'occupation à Paris, qui a suscité énormément de débats, de textes, de contre-textes dans les médias écolos, sur la question de savoir, ben, voilà, à quoi bon cette occupation, pourquoi est-ce qu'elle était tolérée par le pouvoir politique, pourquoi est-ce qu'elle était tolérée par la préfecture de police alors qu'elle se trouvait à 500 mètres de la préfecture de police de Paris, qu'est-ce qui se serait passé si les Gilets jaunes avaient dit on occupe pendant une semaine le même endroit? Est-ce qu'ils auraient subi le même traitement? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on tolère l'occupation d'un mouvement climatique et pas celle des Gilets jaunes qui demandent l'abolition de l'ISF, etc. Et donc, toutes ces questions sont arrivées et on en discutait tout à l'heure en préparant cette table ronde, le sentiment d'un désarroi et d'énormément d'interrogations, quoi, dans le mouvement climat aujourd'hui. Voilà, on va revenir un peu sur toutes ces choses, notamment ces actions à Italie 2, à Paris, la semaine d'occupation, les COP, etc. Et donc, le premier sujet que je vous propose de lancer, c'est la question donc de l'attitude et de notre stratégie, plus généralement, vis-à-vis des initiatives, des propositions de l'écologie institutionnelle ou gouvernementale. Par écologie institutionnelle ou gouvernementale, j'entends tout simplement le fait qu'il y a un ministère de l'écologie en France et dans tous les pays. Ce ministère travaille, fait des choses, quoi qu'on en pense. Et il y a des COP qui sont organisées sur le plan international. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre attitude, nous, militants, collectifs, associations écologistes, vis-à-vis de cette écologie dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui avance, qui est en marche, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'elle est en marche comme un bulldozer qui écrase les écologies alternatives et les écologies rebelles. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait face à cette écologie? Ça se pose notamment sur la question des COP. Là, en ce moment même, par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, le gouvernement maintenant a beau jeu de dire mais nous on met en place des choses, on fait des choses, on se contente pas d'occuper des lieux, de dire non, on tire au sort des citoyens, ils sont souverains, ils peuvent... Et donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Déserter, ignorer ce type d'initiative, déserter, ignorer en se disant que Voilà ce qui peut être la stratégie d'une frange de l'autonomie, de dire ça va s'effondrer sur soi comme une enveloppe creuse dès lors que on en soustrait nos énergies. Est-ce qu'il faut chercher à s'aborder ou est-ce qu'au contraire, il faut chercher à participer, infléchir avec l'idée qu'il y a des débordements internes, des dynamiques de débordement interne qui sont toujours possibles. On a publié hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, un texte dans Terrestre, un appel à faire déborder la Convention citoyenne signée par plusieurs collectifs écologistes qui essaient de défendre cette voie un peu médiane, de dire entre l'idée d'ignorer, de déserter et l'idée de collaborer purement et simplement, il y a peut-être un sentier étroit qui consisterait à participer, mais dans l'idée de faire déborder. Voilà, donc COP, Convention citoyenne, et peut-être, on voulait parler aussi des énergies renouvelables, puisqu'il y a un rapport avec le nucléaire. Je vous laisse la parole. Damien ?
Donc, bonsoir. Moi, dans cette perspective d'écologie gouvernementale, je voulais interroger quelque chose qui me semble là depuis plus longtemps qu'on ne le croit. C'est l'écologie libérale, enfin moi, ce que j'appelle l'écologie libérale, c'est-à-dire que depuis les années 70-80, où on avait une écologie critique, politique, du capitalisme, de la société technicienne, cette écologie-là, selon moi et d'autres, hein, c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs personnes, s'est pris le tournant libéral en pleine figure et on est tombé dans une écologie un peu molle, individualiste, des petits gestes, des petits pas qui étaient portés par des mouvements et des ONG. Et du coup, ces petits gestes, là, il y a un rapport qui vient de sortir chez Carbon 4, là, il y a deux jours, il y a Gaspard Dalens qui vient de faire un article sur Reporter. Et apparemment, d'après ce rapport, l'impact sur l'impact carbone par personne ne serait réduit que de 5 à 10% avec ces petits gestes individuels. Donc, c'est, en plus d'être un peu inefficace, ça rentre aussi dans un discours qui sert le capitalisme vert, qui sert le discours majoritaire. Et je pense que les Gilets jaunes se sont un peu questionné ça en dénonçant l'écologie punitive que portait la taxe carbone et que c'était une fausse régulation écologique. Et moi, c'est plus ça que ce mouvement de fond en fait que j'aimerais questionner ce soir avec la salle, qui produit les énergies renouvelables industrielles, qui produit la Convention citoyenne pour le climat, qui produit toutes sortes d'artefacts qui rentrent dans cette logique et qui servent en fait à la classe dominante à gagner du terrain en fait sur une écologie qui n'est pas la nôtre et que nous on se doit de combattre puisqu'elle est elle remet pas en question les racines de la problématique. Donc moi c'est un peu cette question là que je voulais poser et ce dialogue là que je voulais initier.
Bon, moi je vais parler rapidement des COP justement puisqu'on est à la veille d'une nouvelle COP qui aura lieu à Madrid qui devait se tenir à Santiago du Chili. Moi, j'ai suivi le processus des COP pour ATTAC, auquel j'appartiens aussi, depuis 2007, de 2007 à 2015, exactement, jusqu'à l'accord de Paris. Et justement, par rapport au mouvement climat, ça me paraît vraiment intéressant parce que ce que tu dis, c'est-à-dire le mouvement climat n'est pas né il y a un an. Il y a des racines anciennes et en particulier, je crois qu'il y a eu un moment extrêmement important, c'est la COP de Copenhague. Qui a été 2009, c'était Copenhague, pour lequel on attendait un texte qui permette de remplacer et de continuer le protocole de Kyoto. Bon, je ne rentre pas dans la technique là. Et à ce moment-là, il existait entre guillemets un mouvement climat, absolument pas ancré, mais à travers des associations, des mouvements aussi, des ONG, etc. qui pensait encore, je crois, nous pensions, moi je pensais aussi, qu'avec une pression extérieure, c'est ce que nous faisions à Copenhague ou ailleurs, des contre-forums ou des contre-COP, on pourrait agir sur le texte, on pourrait déborder, comme tu disais, sur la Convention. Bon, et donc ça a été, je crois, l'échec des mouvements sociaux qui étaient à Copenhague, il y avait beaucoup de mouvements sociaux aussi. Je voudrais dire que l'articulation sociale et climatique, c'est depuis le début. Les contre-forums qu'il y avait par exemple à Copenhague, c'était le plus gros. Le centre du contre-forum, c'était la Via Campesina. Le centre du contre-forum, c'était les peuples indigènes qui venaient de du monde entier et qui n'étaient pas enrôlés dans des grandes ONG. Donc je crois que ce problème de l'articulation, il était présent chez beaucoup. Et donc là, il y a eu échec de la conférence de Copenhague, mais il y a eu échec aussi de la construction d'un mouvement climatique par le haut. Parce qu'en fait, c'était ça. C'était la rencontre de grands réseaux internationaux qui tentaient de mobiliser, qui voulaient faire pression. Nous avions des stratégies, on disait, intérieures et extérieures, de manière, en cherchant des alliances à l'intérieur, en particulier, c'était l'alliance avec la Bolivie, etc., etc., pour faire capoter les tentatives de réduction du texte, l'espoir d'obtenir le texte qui permettrait ensuite aux États de... Bon, bref, ça, je crois que c'est... L'ensemble des mouvements sociaux, surtout, qui étaient là à Copenhague, en ont vraiment tiré les conclusions, avec l'idée que le mouvement climat ne pourrait se construire que par le bas, c'est-à-dire par un véritable ancrage, que les questions du climat, ce n'est pas que des questions du carbone, ce n'est pas que des questions de millions de tonnes de carbone, de milliards de tonnes de carbone, de scénarios à l'échelle 2100, 2050, qui sont des scénarios qui étaient à ce moment-là, surtout, complètement abstraits. Et donc, la nécessité de réancrer. Et je crois que c'est là qu'on commençait à se construire aussi à partir de là, une identification de certaines luttes, la lutte sur l'eau, par exemple, depuis longtemps. Il y a des gens qui bataillent pour que l'eau redevienne un commun. Et on a vu qu'à ce moment-là, c'était relié aux questions du climat. La lutte sur les gaz de schiste en France a été très importante. Le refus des gaz de schiste, ça a été lié aux questions du climat, l'énergie, le climat, et pas simplement « je refuse les gaz de schiste ». Et donc, il y a eu une tentative, en tout cas, de relier tous les mouvements ancrés territorialement sur l'eau, le climat, les semences, l'agriculture, etc., à quelque chose plus large, qui est la question climatique. Et avec l'idée de l'articulation climat-société. Le climat en soi, on n'en a rien à faire à la limite. C'est dans la mesure où il impacte les sociétés que ça nous concerne. C'est pas, ou alors on peut philosophiquement, ou je ne sais pas, métaphysiquement. Mais, voilà. Et donc là, il y a eu vraiment un tournant important à partir de 2009. Alors, qui s'est concrétisé, il y a eu plusieurs concrétisations et après des accélérations. Parce que je pense, on pourra en reparler, que dans l'histoire, effectivement, il y a des accélérations. Moi, je ne suis plus les COP et je suis pour abandonner absolument ce terrain-là. Je les ai suivis donc jusqu'en 2015. En 2015, nous n'étions pas du tout dans la perspective même de 2009, où là, on avait vraiment travaillé sur le texte, organisé des conférences, etc., sur le texte, pour savoir ce que nous voulions. Là, non. Là, il y avait une conscience très forte qu'on ne pourrait pas déborder les COP. Déborder peut-être la Convention citoyenne, mais que les COP, on ne pourrait pas les déborder. Et les COP, ce sont des lieux hors terre, ce sont des lieux hors sol, où on discute effectivement les dernières. Et celle de Madrid, elle va être absolument inouïe. On va à Madrid, et depuis 2015, les COP qui se sont succédées ont traité de quoi ? C'est la mise en œuvre de l'accord de Paris, dont on sait qu'il n'y a pas grand-chose dedans, et dont on sait aussi que les promesses de l'accord de Paris ne sont pas respectées et de toute façon seraient totalement insuffisantes pour faire face aux défis que nous avons à affronter. Et pourtant, la COP devient technicienne, elle est complètement technique, c'est comment évaluer les tonnes de carbone, comment contrôler les engagements, etc., etc. C'est de la technique qui est très politique parce que c'est une dépolitisation justement de la question du climat. Par la technique, c'est-à-dire comment on évalue les tonnes de carbone, comment on vérifie, c'est évaluation, vérification, contrôle. Et donc, c'est des discussions entre pays, des discussions sans fin sur ces choses-là. Seule la COP de 2020, peut-être, aura un enjeu. Elle se passera à Glasgow, en Angleterre, parce qu'en 2020, les États se sont engagés à augmenter leurs engagements. Donc là, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui peut, pas dans la COP, hein, mais dans l'extra-COP, disons, il peut y avoir quelque chose qui nous donne aussi une sorte de ligne hein, par rapport à ce que nous pouvons exiger. Bon, voilà pourquoi les COP ne sont plus, en tout cas, les COP ne sont plus un moment de constitution d'un mouvement de climat national et international. Ce n'est plus ça. Même si, après, ça continue. Hein, à Madrid, il va y avoir un contre-forum, il va y avoir une manifestation, mais qui tiennent, enfin, je pense, beaucoup du rituel aussi, quand même. Mais j'insiste quand même, hein, dans les contre-sommets qu'il y avait sur les COP, c'était pas les grandes ONG écolo. Hein, il y avait eu depuis Bali, depuis 2007, il y avait eu une rupture. Il y avait deux grands blocs internationaux. Il y avait un bloc dans lequel, par exemple, on retrouve en France les, comment il s'appelle, qui travaille beaucoup sur le climat, le RAC. Et il y avait l'équivalent au niveau international et un autre groupe auquel appartenait ATTAC, la Via Campesina, les peuples indigènes, etc., qui s'appelait Climate Justice Now, c'était justice climatique maintenant, où là, c'était l'articulation, véritablement. Mais c'était par le haut. Et le changement, c'est que c'est la construction par le bas.
Mais donc, ton bilan, c'est que... Non, on n'entend pas ? Si. Ton bilan, c'est que même cet activisme du contre-sommet, aujourd'hui, ne mérite plus d'être investi. Enfin, c'est un peu le constat auquel tu arrives à partir de la COP de 2015.
Bon, on va en rediscuter, mais je pense que je ne suis pas exclusive d'une pratique par rapport à une autre. Il y a encore des mouvements qui vont se retrouver en Espagne, à Madrid. Et je pense qu'ils vont renforcer aussi des luttes locales. Ça va être porté par des mouvements sociaux espagnols ou catalans ou bon bref. Et donc là, je pense aussi que c'est un outil de dynamisation. Et moi, je comment dire, même si pour nous, c'est plus une priorité, mais il y a encore des ressources possibles. Hein, alors que ça a été une priorité pendant longtemps, où on pensait qu'on allait construire le mouvement climat comme ça, finalement par le haut. Même si nous ne voulions pas le construire par le haut, mais de fait, on s'est rendu compte que nous participions d'une abstraction du climat, c'est-à-dire le climat, c'est quelque chose, c'est des chiffres, des scénarios, etc., des textes internationaux auxquels personne ne comprend pas grand-chose, extrêmement technique, hein, quelque chose d'assez hors sol. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ce qui s'est passé en Pologne à la COP de 2018, au moment des canicules. Il y a eu toutes les canicules, il n'en est pas question du tout dans l'enceinte de la COP. On ne parle pas du climat dans l'enceinte de la COP. On parle des tonnes de carbone, de l'évaluation du marché du carbone. C'est de ça dont on parle, mais on ne parle pas du climat. On ne parle pas du climat. Concret.
Je vous passe la parole au Claude de Radiaction. J'en profite pour présenter Léna Lazare, qui est membre des Jeunes en grève pour le climat. Il prendra la parole après, je pense.
Peut-être pour poursuivre sur cette histoire de COP et pour resituer aussi Radiaction dans ce que c'est, c'est-à-dire que Radiaction, c'est un mouvement qui est né à la base de personnes qui s'étaient regroupées pour organiser les déplacements pour aller participer aux actions Ende Gelände, qui est une campagne allemande pour lutter contre l'extraction de charbon et plus particulièrement de lignite, donc en Allemagne. Et donc nous, on s'est vraiment constitué sur cette base-là. On a cet héritage-là et je pense que par ailleurs c'est important de, parce qu'on en a discuté un petit peu entre nous, c'est important de savoir d'où on vient et de savoir que même si aujourd'hui on se pose la question de ces COP-là, s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements de contre-COP, etc., en fait on n'en serait juste pas là, donc c'est important aussi de savoir d'où on vient. Et en l'occurrence, Ende Gelände s'est constitué, donc les premières actions de désobéissance civile de masse et donc d'occupation de mines de charbon et d'infrastructures liées à l'extraction de charbon. La première action a eu lieu en août 2015 et a rassemblé 1500 personnes. Et c'était vraiment un contexte dans lequel il y avait un constat de, en fait, les COP, ça suffit. On n'y est pas représenté. Donc là, on parlait du fait que c'était hors sol vis-à-vis des questions, mais on pourrait aussi parler de qui y est représenté. Enfin, les peuples autochtones, ils sont massivement floués. Les classes les plus populaires n'y sont évidemment pas du tout représentées. Enfin, les COP, on n'y est pas représenté, c'est pas nous. C'est complètement antidémocratique, c'est vraiment main dans la main, État et lobby. Et par ailleurs, c'est inutile. Voilà, c'est un processus qui existe depuis longtemps. Depuis le début des COP, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60% parmi les pays qui appartiennent aux Nations Unies. Le dernier rapport spécial du GIEC montre que, en fait, si les États déjà respectent leur engagement pendant de l'accord de Paris, ce qui est absolument pas le cas actuellement, en fait, c'est 1,5 degré qui était l'objectif, sont clairement dépassés. On serait plutôt vers une trajectoire à 3 degrés en 2100. Et en plus, c'est 1,5 et 3 degrés, c'est En fait, ça ne veut rien dire parce qu'un monde à 1,5 degré, c'est déjà invivable, mais pour tout le monde. Et en fait, on est déjà en plein réchauffement climatique. Enfin bon, bref. Donc, en gros, ça ne sert à rien. Donc, sur cette base-là, qu'est-ce qu'on fait ? En gros, il y a plusieurs personnes, plusieurs structures, syndicats, associations, dont des associations antinucléaires, qui se sont dit on va reprendre le pouvoir, on se rassemble, on bloque, à la fois pour montrer que c'est possible, à la fois pour lutter directement contre la source de production de gaz à effet de serre, à savoir là, des mines parmi les plus polluantes, la mine de Garzweiler qui a été bloquée plusieurs fois, c'est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, en Europe. Et en même temps, on reprend un peu le contrôle sur nos vies, sur ce qu'on peut faire, et on agit directement avec nos corps et on arrête de laisser en fait le pouvoir aux mains de quelques dirigeants qui par ailleurs ne nous représentent plus. Enfin, ça, c'était le mot d'ordre des multiples, de 2011 à 2015, des mouvements des places, de dire les gouvernements ne nous représentent plus, donc on leur fait pas confiance. Et donc nous, Radiaction, on est issus de ça et globalement, on pense un peu la même chose, c'est-à-dire de se dire qu'on n'a pas à attendre que des gouvernements nous donnent la parole, on n'a pas à attendre qu'ils agissent pour nous, on n'a pas à porter des revendications, c'est à nous d'agir ici et maintenant. On y reviendra après sur la manière dont on se structure et dont on peut agir. Et du coup, ça peut faire le lien, peut-être je laisse la parole sur tout ce qui est convention citoyenne.
Bonsoir. Du coup, sur la convention citoyenne, enfin, je vais juste ajouter un détail parce qu'en gros, je fais partie des étudiants, chercheurs, chercheuses, slash plein de trucs, qui ont été invités par le comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat à suivre cette convention et pour l'analyser, machin, et que chacun dans son domaine respectif apporte un regard réflexif sur cette convention. Donc, de fait, depuis 3 week-ends et pour les 3 prochains, en gros, je viens au CESE avec d'autres chercheurs, chercheuses, et en gros, on regarde ce qui se passe. Et du coup, la convention citoyenne pour le climat, je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre ce vers quoi on peut aller et une sorte de réponse, quand on parlait d'écologie gouvernementale et étatique libérale, et en même temps les marges de manœuvre qui s'insinuent. Bon, à la convention citoyenne pour le climat, déborder la convention, pourquoi pas, je vois pas bien comment ça peut se faire, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, il y a 2-3 choses, pour résumer très rapidement, qui déjà sont hyper problématiques. C'est la formulation de la question. En gros, les 150 tirés au sort, on leur a posé la question: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale? Et du coup, en fait, cette question, elle amène la question écologique de manière super technique, et que du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour répondre à cette question, où en gros, l'enjeu, c'est d'apporter des mesures à cette question que les gens débattent, et du coup, en fait, ça en vient, à une surenchère de technicité, et ça parle taxe carbone, ça parle marché carbone, ça parle de réduire les transports tels. La question en soi, elle est ouverte à plein de possibilités. Je pense que si on, d'un point de vue un peu conceptuel, mais même en fonction des gens avec qui on s'entoure, on peut répondre à cette question: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. On peut aboutir à une question: faut renverser le capitalisme, faut renverser les patriarcats, faut abolir l'impérialisme. Je pense que vraiment, si on suit un fil logique, c'est possible. Sauf que c'est pas le cas à la convention, parce que, en fait, La forme de la convention fait que c'est impossible. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est la forme de la démocratie qui est proposée au sein de la convention. C'est, en fait, je pense qu'il ne faut pas cracher dessus direct, parce qu'en fait, c'est stupide, parce que même les fachos, ils le font. 150 tirs au sort qui se réunissent, c'est nul, ils sont légitimes de rien, ils sont représentatifs de rien du tout, ils parlent, ils ne savent pas, etc. Je pense qu'il faut arriver collectivement à protéger ce truc de, en fait, si, en fait, on est légitime à s'exprimer, mais ce qui pose énormément de problèmes, déjà, c'est la place des intervenants. Sur les week-ends, c'est affreux, c'est épuisant. Ils arrivent tôt le matin, ils repartent tard le soir. Et vraiment, ils sont assis sur des chaises et il y a des intervenants qui circulent comme ça devant eux. Et les intervenants, c'est qui? C'est les gens qui ont été choisis par le comité de gouvernance. Après, ils peuvent influer un peu. Les 150 tirs au sort, ils peuvent demander à aller voir un tel ou un tel. Ils ont demandé à voir Hulot, ils ont demandé à voir Macron. Donc c'est rigolo d'ailleurs de voir aussi... les gens, ils sont pragmatiques. Moi, je trouve ça ouf. Enfin, je nous trouve pragmatique, en fait. Enfin, pas tout le temps, mais bref, genre en gros, ils disent il faut voir Hulot parce qu'il a démissionné, qu'il a des choses à dire sur l'écologie, et il faut voir Macron parce que c'est lui qui a le pouvoir. Bref, donc du coup, moi je trouve que ça en dit beaucoup. Et du coup, ces intervenants, mine de rien, il y a 2 économistes qui sont venus, c'était 2 économistes libérales qui ont radoté pendant 10 minutes sur la taxe carbone et le marché carbone. Donc du coup, forcément, dans ce contexte-là, la forme de la démocratie qui est proposée, elle est hyper problématique. Et le troisième point, je m'arrête, C'est les. Après, il y a un. C'est le petit point sur les gens qui sont venus. Ils ont généré 10 000 numéros de téléphone aléatoirement. Ils ont appelé les gens. Ils ont dit est-ce que vous voulez faire partie de la convention. Oui, non, merde. Et les gens ont dit oui ou non. Et après, ils ont fait un panel en disant bon, dans la société française, il y a 52% de femmes et 48% d'hommes. Je crois que c'est ça. Bref. Et on veut la même chose dans la convention. Il y a tel niveau de diplôme. Tac, 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 tac. On veut la même chose dans la convention. Les tranches d'âge, c'est à peu près ça dans la société française. On veut la même chose. Donc déjà. Il y a quand même deux problèmes. C'est bon, déjà la sélection, genre il faut avoir un téléphone, faut avoir eu envie de venir. Donc c'est pas tout le monde qui a envie de venir. C'est pas seulement une question de climato-sceptique ou pas climato-sceptique. On n'a pas besoin de climato-sceptique pour parler d'écologie. Mais en revanche, c'est quand même qui se sent légitime à aller jusqu'à Paris et à parler au sein de cette convention. Enfin, c'est beaucoup quand même. Enfin, faut aller à Paris. Alors ils sont défrayés, ils ont une compensation financière, mais il faut quand même se projeter à Paris. On est appelé par le CESE. Enfin, c'est pas n'importe. Enfin, c'est pas tout le monde. On n'est pas tous en capacité. On n'est pas égal en tant que personne face à ce genre de truc. Et de fait, il y a une surreprésentation de cadres dans la convention. Dans la société française, c'est genre 9% de cadres, et là, la convention, c'est 15%. Il y a une surreprésentation des franciliens, enfin parisiens et pas que. Là, pareil, il y a un écart de 4-5%. Donc, on voit déjà que ça influe un peu dans un sens qui va vers justement cette écologie libérale, citadine, blablabla. Blablabla. Et du coup, bref. Mais. Dernière chose, non, j'ai oublié, mais j'ai été déjà très long.
Bon, du coup, j'ai peut-être commencé à présenter rapidement ce qui se passait au niveau du mouvement jeune à Paris. Du coup, on est un mouvement qui s'est créé en février dernier, de manière spontanée après une AG à Jussieu qui avait été là pour le coup organisée par des associatifs écolo-étudiants. Et pendant une dizaine de semaines, tous les vendredis, on a fait des marches couplées à des actions de désobéissance civile, avec des revendications assez précises qui sont lisibles sur le site de reporter, donc les leçons au gouvernement. Et c'est un mouvement horizontal avec des comités locaux maintenant partout en France. Et oui, depuis le début, on a un rapport aux institutions. Enfin, clairement, on pense que c'est la voie institutionnelle est bouchée. Et c'est vrai que tout ce qui est COP ou convention citoyenne, c'est des choses qu'on regarde un petit peu de loin et on a l'impression que s'en mêler, ça demanderait, je pense. Beaucoup trop d'efforts que ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en obtenir en éventuellement en le faisant déborder. La convention citoyenne, je pense que si on avait eu plus de forces militantes, on aurait peut-être organisé des assemblées citoyennes, juste parce que je pense que ça aurait été intéressant de quand même de commencer à parler un petit peu de démocratie. Et puis les arguments que tu as évoqués et qui ont été évoqués dans la tribune de Terrestre. Enfin, c'est des arguments de fond et je pense qu'il faut vraiment se poser toutes ces questions-là parce que les gens ne le voient pas forcément en voyant la convention citoyenne. Et donc, on n'a pas encore décidé ce qu'on faisait si on se joignait aux mobilisations à Madrid. Peut-être parce que, bon, comme d'habitude, quand il y a des grosses mobilisations, ça peut quand même être intéressant d'essayer d'arriver avec d'autres modes d'action. Et ça peut peut-être être quand même l'occasion de montrer très clairement que voilà, les militants écolos... sont radicaux et justement ont compris que les COP c'était pas utile. Donc je sais pas, il y a peut-être quand même des choses à faire, mais c'est vrai que là globalement on a tendance à plutôt se concentrer sur le local et à faire monter la mobilisation ici.
Merci. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu tourner la parole dans la salle? Ce serait bien, je trouve. Ouais. On tente. Il y a un micro dans la salle ou non? D'accord.
Une chose qui m'énerve, c'est que les gilets jaunes, ils ont fait de la casse et on a plié devant eux. Donc je pense que le mouvement écologique, depuis ce moment-là, je me dis, il faut que les écolos ils cassent. Il faut qu'il soit beaucoup plus radical pour obtenir quoi que ce soit.
Attention, point Godwin.
Bonjour. J'ai cru entendre quelqu'un dire qu'on On pouvait pas attendre grand-chose d'une classe dirigeante, quelle qu'elle soit. Donc c'est bizarre que, bah, depuis 45 ans, et René Dumont et son verre d'eau, s'est exprimé devant tous les électeurs, on emploie toujours les mêmes moyens qui sont pas efficaces. Je trouve, tout le monde pense que c'est pas efficace, mais on oublie que, à côté de chez soi, il y a des décideurs qu'on peut rencontrer tous les jours. Et donc, on peut peut-être essayer de appeler à la pression sur ces décideurs localement pour obtenir non pas un autre monde, etc., mais sur le territoire et aussi sur les personnes, une grande autonomie, voilà, à la fois fin du monde et fin du mois. Pourquoi je sais que localement ils n'ont pas trop de moyens, mais est-ce que c'est pas mieux de faire pression sur des gens qu'on peut rencontrer encore une fois tous les jours, hein, avec des plateformes internet qui relient entre elles, etc., plutôt que de casser ou même simplement dire aux annas sur une place du Châtelet quelconque.
C'est juste, ces décideurs voulaient parler des responsables politiques au niveau municipal, régional, d'accord.
Proches décideurs, ils sont capables de dire que c'est du terrorisme, que c'est de l'intimidation contre des élus, ils ont tourné tout ça, non? Peut-être tu vas là-bas, on se connaît depuis quelques décennies, gentiment à dire à ton voisin qui est, je ne sais pas, admettons, député LREM, et tu te retrouves qu'à la télé, ils disent que tu as ciblé quelqu'un chez lui, que c'était un guet-apens.
T'as pas peur de ça, toi? T'as jamais eu peur quand
tu te... Non, ça, j'ai pas eu peur. Sauf, vu que pour un moment, j'ai eu les microphones, je voudrais pas créer un problème, mais dire un truc. Loin de moi, c'est vraiment, je ne supporte pas cet engouement pour trouver toujours quelqu'un à pestiférer, stigmatiser, etc. Donc, ça, pas du tout. Ceci dit, et je pense que, comme Bourde, je le dis, et même si la personne est présente, c'est beaucoup plus lourde celle que de dire, peut-être avec l'intention de dire que dans l'histoire humaine a été toujours comme ça, et ça sera même pire, mais c'est plutôt lourde une phrase comme au bol Auschwitz-Birkenau, c'est la dernière connerie de l'histoire humaine, che caillassé en SUV ou une vitrine, d'après moi. Et que donc, le fait qu'à un certain moment, j'arrive à un paradoxe, non? Il y a quelques paradoxes dans l'histoire. Je peux dire que si, quand il y avait le nazisme, il y avait un mouvement qui réclamait la reconversion écologique de ThyssenKrupp ou de l'usine qui faisait les Zyklon B, on aurait dit, ah mais les pauvres travailleurs et leurs syndicats, ils ne sont pas d'accord. Et j'ai terminé que maintenant on arrive à un paradoxe. Si
on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet, on va faire passer le micro pour qu'il y ait d'autres questions dans la salle.
À la fin des nazis, ça ne se fait pas, et qui lui fout une baffe, c'est stigmatisé comme les vrais monstres.
Merci.
Ça, c'est macronienne, très macronienne, mais le macronisme, c'est assez diffus.
Merci. Il y avait une question devant.
Ouais, non, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque par rapport du coup au thème de cette première partie. Moi, je suis très sceptique sur les perspectives de faire quelque chose des initiatives étatiques et gouvernementales. Enfin, vraiment très très sceptique. Par contre, par rapport, j'aimerais partager une inquiétude, c'est-à-dire que je fais aussi partie d'Extinction Rébellion. Je suis très impliqué dans les luttes écologiques. Et ce que je sens venir, non seulement dans la population, mais aussi parmi certains militants autour d'écologie et écologistes et climatiques, c'est des, comment dire, cette idée qu'en fin de compte, par rapport aux enjeux tels qu'ils vont se présenter et se confirmer dans la période à venir, il faudrait peut-être se poser des questions en termes de solutions technocratiques autoritaires pour faire face aux dangers qui s'annoncent. Je sens que c'est quelque chose qui plane un petit peu au-dessus des esprits, qui plane dans la société, qui plane, je répète, même parmi dans l'esprit de certains militants écologistes, et je trouve ça extrêmement inquiétant. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité entre critique, enfin, entre prise de conscience de la catastrophe écologique dans laquelle on s'engage et lutte et opposition aux injustices de façon générale. Je pense qu'il y a une connexion qui se fait assez facilement par rapport à la critique du capitalisme. Et moi, je suis assez surpris et content de voir qu'en fait, des gens qui... des politisations accélérées, même en très peu de mois, de gens qui étaient totalement intégrés à la société et qui sont anticapitalistes de façon ouverte et consciente et franche, avec une dénonciation globale du système, de façon très rapide. Donc, je répète, j'en suis très surpris, très heureux. Et je pense que c'est aussi l'une des chances, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose en tout cas, qui donne un petit peu de lumière par rapport à tout ce qui se joue dans cette période. Pour autant, je répète, je pense que on n'est pas à l'abri d'une adhésion de toute une partie de la population à des solutions, je répète, technocratiques, autoritaires. C'est quelque chose qui nous menace.
Oui, on prend une dernière question et on va essayer de répondre autant que possible. Après, selon le...
Bon, excusez-moi.
Exactement.
Excusez-moi, je suis pas sûr de retrouver le fil de ce que je voulais dire, mais parce que moi, j'essaie de... Je suis tout au fond, là. J'essaie de tirer le fil de tout ce qu'on dit ici, là. Et justement, moi, je pense que je pense qu'il faut se rappeler de ce qu'a dit Yves Cochet tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que la solution elle peut venir de il faut que chacun se préoccupe de produire soi-même sa nourriture puisque c'est ce qui risque de le problème qui risque de nous arriver, donc voilà. Il faudrait qu'on soit tous jardiniers, c'est un peu ça ma réponse.
Peut-être, oui. Une dernière, oui.
Oui, une réaction sur la dérive autoritaire et technocratique. Apparemment, c'est donc une des questions posées au panel de la Convention, c'est d'apporter des outils, des réponses concrètes. Donc, une des réponses concrètes, je vous invite à vous documenter, ça pourrait être une carte carbone. Si vous voulez, c'est une sorte de carte de rationnement qui contraint en fait la consommation individuelle à un certain niveau, quoi. Comme il y a eu des... Enfin, c'est une notion de rationnement, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est des outils concrets qui pourraient améliorer un petit peu la situation. Enfin, c'est toujours mieux que rien, quoi.
Excusez-moi, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire, si je peux me permettre. Et c'est mon voisin qui m'a ramené ce fil-là. C'est que j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes qui risquaient d'arriver. Alors, comme il a été question de 2008, que ça a démarré avec la crise du pétrole, je pense qu'il peut se repasser soit la même chose, soit j'ai entendu parler de la sécu. Alors, c'est compliqué, je ne saurais pas le réexpliquer comme ça rapidement, mais on risque d'avoir un problème de minima sociaux et surtout de sécurité sociale qui risque de... parce qu'il y a la mainmise de l'État, alors qu'il y avait une liberté citoyenne avant qui est en train de disparaître. Tous les services publics sont en train de disparaître. Il y a l'ADP, tout ça. Enfin, c'est un grand mouvement de libéralisme c'est le libéralisme, en fait, qui gagne du terrain. Voilà.
Il y a eu deux questions qui tournaient autour de l'autoritarisme ou des solutions techno-autoritaires. Peut-être qu'on pourrait rebondir là-dessus. Je pense que la question de la violence, violence-non-violence, on s'était dit que ça faisait partie des sujets qu'on aurait bien aimé éviter ce soir. Parce que, voilà, il est, pour ceux qui sont familiers de ces débats, il est un peu pénible. Et surtout, il en ressort presque jamais rien. La proposition de carte de rationnement, elle a été aussi faite il n'y a pas très longtemps dans une tribune d'Yves Cochet dans Le Monde, je crois, avant l'été. Donc je crois que c'est aussi une proposition de Momentum. Est-ce que c'est une solution techno-autoritaire? Je vous laisse réagir.
Pour ce qui est de...
Ça marche ? Ok. Oui, juste un petit point technique, parce que du coup, ça va faire le lien en plus avec quelque chose qu'on voudrait dire aussi sur le fait de, alors peut-être pas devenir tous et toutes jardiniers, mais en tout cas pouvoir... Enfin, une des choses que nous on prône, ça peut être l'organisation de notre mouvement et le fait qu'on considère que déjà en tant que mouvement, on a énormément de pouvoir et de poids sur ce qu'on peut faire. On n'en est pas à, on réfute vraiment l'action individuelle et individualiste. Par contre, on considère que la manière de s'organiser compte énormément et qu'on ne peut pas critiquer des COP et en même temps s'organiser de manière ultra hiérarchique. Et un des principes qui nous est très... qui nous tient énormément à cœur, c'est la question du patriarcat, qui se retrouve énormément dans la lutte contre le nucléaire. Et c'est pour ça que dans nos manières de nous organiser, notamment de prendre des décisions, on fait très très attention aux prises de parole hommes-femmes. Alors, on a conscience que c'est de manière très binaire et que ça exclut par ailleurs la question trans, que ça exclut les personnes non-binaires, etc. Par contre, alors c'est vraiment une exigence que je porte. Ce serait génial vraiment que... Un des principes qu'on pense, c'est que dans les prises de parole, donc il y a autant d'hommes que de femmes qui puissent prendre la parole. Or, ça n'a pas du tout été le cas pendant ces prises de parole. On a observé une prise de parole féminine et une prise de parole, enfin, 6 prises de parole femmes. Merci à mon voisin. Homme, pardon. Merci à mon voisin. Et voilà. Donc, c'est des principes qu'on porte et on aimerait bien que ce soit respecté aussi dans les autres espaces, surtout dans des espaces où on réfléchit à l'après, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Ce serait chouette. Merci.
Ça renvoie effectivement aussi à l'autoritarisme et aux questions de la domination. Bon, je reviens sur la carte carbone. En fait, la carte carbone telle qu'elle est envisagée, souvent, ce n'est pas du tout le rationnement. Parce que rationnement, ça veut dire, bon, on attend, on peut dépenser tant de carbone par an, point. Et on ne peut pas excéder. La carte carbone telle qu'elle est pensée, c'est des crédits carbone. C'est des crédits carbone que je pourrais éventuellement échanger. C'est-à-dire, si je ne dépense pas tous mes crédits carbone, si je suis vertueuse, je vais pouvoir aller sur le marché du carbone, vendre mon excédent de crédits carbone à des gens qui, eux, ne sont pas vertueux. Et là, typiquement, on est dans une écologie. Alors, c'est pas techno-autoritaire, là, c'est techno-libéral. Mais le terme de libéral, il est extrêmement piégé. Parce qu'aujourd'hui, le libéralisme économique s'accompagne de l'autoritarisme politique, mais pas pour l'avenir. Nous sommes dans des systèmes qui sont libéraux sur le plan économique et autoritaires sur le plan politique, sur le plan du droit, etc. Alors ensuite, la crainte de la technologie, etc., c'était déjà dans les années 70, André Gortz, etc., qui parlait de technofascisme, etc. Ce que je peux dire par rapport au COP et par rapport au GIEC, c'est que justement, et c'est contre ça que nous devons absolument lutter, l'histoire de la géo-ingénierie, c'est-à-dire de modifier globalement le système Terre, ce qu'ils appellent le système Terre, etc., c'était relativement tabou, et il y a un moratoire international sur ces techniques qui sont des techniques massives de modification de la Terre pour l'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Il y a un moratoire. Ce moratoire, il n'est plus respecté aujourd'hui, surtout parce que certains États n'ont pas signé ce moratoire, les États-Unis en particulier. Et donc, et ce qui est grave, entre guillemets, c'est que dans les rapports du GIEC, le dernier rapport du GIEC, le 1,5 degré, il est dit, c'est infusé, que ça ne pourra être atteint compte tenu des conditions politiques que par ces techniques massives de modification des grands équilibres. Et que dans la COP de Madrid, il va y avoir des événements dans la COP, un peu à côté, mais qui font partie de la COP, sur la géo-ingénierie. Donc, et beaucoup de climato-sceptiques, ils n'ont pas disparu, les climato-sceptiques. Ils se sont reconvertis dans la géo-ingénierie. Pour beaucoup, c'est tout ce discours puissant de ce qu'on appelait les climato-sceptiques. Enfin, c'est plus que sceptique, parce qu'un scientifique, par définition, il est sceptique. Il doute. C'est pas ça, c'est des climato-négations. J'aime pas employer ce terme-là, je veux pas qu'il y ait de confusion. En tout cas, c'est la négation de la question climatique. Bon, voilà. Et donc, en revanche, dans la population, quand on parle aux gens de tous ces projets qu'il peut y avoir, ça, je crois, je crains l'acceptation de l'autoritarisme au nom de la sécurité. Le parapluie sécurité. Ça oui. En revanche, dès qu'on discute, et c'est là qu'il faut élargir nos publics, des grands projets de géo-ingénierie ou de bio-ingénierie, comment dire, ça apparaît comme des choses absolument complètement délirantes. C'est pas du tout de la science-fiction ou de la politique-fiction. Et là, je pense pas qu'il y ait une adhésion forte à cela. Dans les élites, oui. Dans les élites, oui. Sinon, je crois pas. En revanche, la tentation autoritaire pour la sécurité, bon, mais ça, il faut le combattre par toutes nos luttes démocratiques. Ça, j'en suis absolument convaincu. C'est une urgence. Parce que ça peut venir très, très vite. En cas de panique, par exemple. En cas de panique. Et pour ce qui est du rationnement, c'est l'économie de guerre, ça s'appelle. Hein ? C'est l'économie de guerre. Ça dépend tout à fait comment ce rationnement, qui c'est qui décide du rationnement, comment il est organisé. Moi, a priori, je ne suis pas contre le rationnement. Parce que là, alors évidemment, tous les libéraux sont absolument contre, parce que c'est la réglementation, et la réglementation, c'est inadmissible. Ça dépend comment on produit qui produit la réglementation. Qui l'a produit, qui l'a fait appliquer. Bon, moi, si la réglementation est produite de manière démocratique, je suis contre l'utilisation du terme d'écologie punitive. C'est très grave, c'est le discours libéral qui considère que toute réglementation est punitive. Moi, je m'arrête au feu rouge. Je pense que vous aussi. Pourquoi je m'arrête ? C'est pas punitif. Je pourrais dire, j'en ai rien à foutre des feux rouges, qu'est-ce qu'on m'embête de me faire arrêter au feu rouge ? Mais si je m'arrête pas, il n'y a pas de circulation possible. C'est aussi la vie en commun. Donc, l'écologie punitive, type Ségolène Royal, etc., qui brandit, dès qu'il y a une réglementation, c'est la punition ? Non. La question, c'est qui produit la réglementation, comment on la produit et qui l'applique. C'est ça, et à qui elle s'applique. Et à qui elle s'applique. Mais ce n'est pas la réglementation en soi. Oui, il faudra de la réglementation sévère. Les petits gestes ne suffiront pas. On le sait. Donc.
Non, moi, je voulais juste parler de.
Oui, ben non, mais c'est ça. C'est, enfin, la transition, elle est là. C'est, tu dis, est-ce que cette réglementation, elle peut être produite de manière démocratique au niveau étatique ? Finalement, c'est ça. Enfin, on en arrive très vite à cette question-là. C'est-à-dire, on sent que face à certaines questions, là, tu parlais de géo-ingénierie à l'instant, mais on peut parler, voilà, des nouveaux champs de pétrole qu'explore Total. En Afrique de l'Ouest, face à des forces aussi phénoménales, des enjeux aussi immenses, on a l'impression quand même que l'échelon étatique est difficile d'en faire abstraction. Et en même temps, est-ce qu'il y a moyen de se réapproprier une pratique démocratique à cet échelon, en sachant que déjà au niveau d'une convention citoyenne pour le climat, soit on n'y arrive pas, soit parce que c'est peut-être capturé d'emblée, mais la question de l'auto, enfin, ça pose la question de l'auto-organisation et de savoir jusqu'à quel échelon géographique, démographique, l'auto-organisation est praticable. Et il y a cette question qui traverse, je pense, toute une partie de l'écologie entre écologie des luttes, des territoires, ce qu'on peut appeler écologie, l'écologie ancrée. L'écologie de la ZAD, si on veut, et une autre écologie qui estime qu'on ne peut pas du tout faire l'impasse sur la question. Enfin, c'est un peu le thème du dernier bouquin de Frédéric Lordon, pour ceux qui ont jeté un œil dessus. Le fait qu'on a affaire à un adversaire ou à un ennemi qui est de taille macroscopique, qu'on l'appelle le système capitaliste ou d'un autre nom, et que face à une force macroscopique, il faut opposer une contre-force macroscopique, et que les désertions individuelles, même les désertions collectives locales, ces désertions, elles ont, on pourrait se dire, en tout cas si on adopte ce point de vue critique, il y en a déjà eu dans les années 60-70, il y a déjà eu un mouvement de désertion, les Longomailles par exemple, les communautés Longomailles ont été fondées dans les années 70, l'archipel, il a pas marché, quoi. Finalement, enfin, oui, non, si, il y en a. Non, mais l'archipel. Ouais, alors très bien. Je vais laisser Claude réagir. Mais l'archipel au sens d'une contagion généralisée, quoi, d'une contagion généralisée qui, à la fin, vide le pouvoir étatique de sa substance. C'est un peu, stratégie défendue par le comité invisible et qui a, je pense, beaucoup infusé dans une partie du mouvement écolo. Non pas lutter contre, non pas investir le pouvoir d'État, mais se retirer et en se retirant, le rendre impuissant. Sauf que avant que ce retrait devienne un retrait suffisamment massif pour que, effectivement, l'État
perdre sa capacité de son emprise, sa capacité de puissance. Voilà. Est-ce qu'on est dans des échelles de dizaines d'années? Voilà. Donc cette question d'un côté du localisme, du municipalisme libertaire qui a beaucoup refait surface avec Bookchin ces dernières années en France. Et d'un autre côté, voilà, le point de vue plus étatiste de gens, Lordon ou d'autres, même si Lordon n'est pas vraiment un écologiste, mais qui, eux, estiment qu'il n'y aura pas de victoire ni de rupture réelle sans récupération du pouvoir d'État.
Moi je suis vraiment cette conférence tombe à pic parce que j'ai pas la réponse à ta question en fait. Je suis vraiment paumé en fait ces dernières semaines après la rébellion internationale de XR. Moi ça fait depuis le début que je suis chez Extinction Rebellion France. Et là aujourd'hui en fait, je pense qu'on est nombreux, je croise des regards et je pense qu'on est. Je suis pas tout seul en fait à être paumé ces derniers temps. Et c'est sans doute à cause de ce qu'est en train de devenir XR, mais ça c'est notre débat. Ou le mouvement climat en général, mais moi, ce qui m'a fait... comme vous voulez. je parle en mon nom. Non, mais c'est ce que je disais, en fait, sur l'écologie libérale tout à l'heure. En fait, je pense que cette perspective écologiste individualiste, en fait, attire un public qui est assez convaincu de cette ligne-là. Et en fait, on a peut-être une surreprésentation de cette catégorie de population dans nos mouvements. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel, moi, je trouve que c'est assez notable chez Extinction Rebellion, notamment à Paris. Et en fait, ça ne crée pas un climat. Moi, j'habite en squat. J'habite avec des squatteurs d'extrême-gauche, avec des zadistes. Et en fait, il y a plein de choses qui limitent l'accès à Extinction Rebellion, à ces catégories de population-là. Les Gilets jaunes aussi, on a fait une action Italie 2 avec des Gilets jaunes. Mais c'est vrai que c'est assez difficile pour ces catégories de population d'accéder à Extinction Rebellion. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, si on veut, on peut parler de logique nationale, de stratégie locale. Moi, ça m'a fait énormément de bien d'habiter en fait, dans une espèce d'illégalité en constant, enfin tout le temps, quoi. Et c'est pas... Ça permet de vivre en marge de la légalité. Et en fait, on adopte un état d'esprit qui est beaucoup plus offensif. Et les discussions qu'on a avec des militants d'extrême-gauche, des militants zadistes, etc. Et c'est pour ça que moi, je suis très enthousiaste sur le fait qu'il y ait plein de maisons du peuple qui sont en train de s'ouvrir un peu partout en France, même si elles se font évacuer assez rapidement. Mais voilà, qu'il y ait des squats qui se créent, qu'il y ait des luttes territoriales qui se créent en lien avec ces squats. Ça permet de se confronter directement au problème, parce que c'est un peu le problème, je pense, quand on développe des stratégies un peu nationales, un peu politiques, c'est qu'on a vraiment du mal à se confronter à ce que c'est que la catastrophe écologique. Et moi, chez XR, moi, je trouve qu'on est un peu hors sol, à vrai dire. Nos actions sont un peu hors sol. Même les actions auxquelles j'ai participé, on avait bloqué un paquebot, même si c'est à Bordeaux, même si c'était cool, techniquement, on ne l'a pas refait. Et en fait, c'est dans la répétition aussi que l'impact arrive. Et si on bloque un paquebot une fois, ça ne marche pas. Si on le bloque 15 fois, ça commence à fonctionner. Et en fait, c'est un peu aussi, on est un peu victime de notre côté communicationnel marketing. Et en fait, on est dans une hype. Et en fait, on colle à cette hype et on fait une action. Et c'est un peu de la consommation, quoi. Mes mots sont durs, j'en ai conscience, mais ça, c'est peut-être un peu un... parce que je suis là depuis le début et voilà. Et ce que je voulais dire sur... au début, ouais, c'est... Je sais pas s'il faut une stratégie politique nationale parce que je pense que ça... Bah, ça change en fait les gens de s'impliquer dans ce genre d'initiative un peu partisane ou je sais pas comment faire une force politique qui pourrait rivaliser avec les forces politiques en présence. Moi, je serais que j'en serais pas forcément capable, je pense, mais moi, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir lutter au local, à la fois dans les ZAD, à la fois dans les squats, à la fois dans les actions d'Extinction Rebellion, et voilà, c'est de cultiver ça. Donc là, pour l'instant, je vous avoue, je suis un peu paumé, donc je ne saurais pas répondre à cette question qui est un peu trop technique pour moi. Mais si vous avez...
On se répartit la parole. alors, des réponses, pas forcément, et si on en avait, on serait justement dans cette dérive autoritaire, je pense. Effectivement, des éléments de contribution. Enfin, pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, la réflexion de qu'est-ce qu'on fait de l'État. Enfin, des fois, j'ai l'impression que c'est de nouveau, c'est une impasse. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'on réinvente des choses. Ça, je pense qu'on en a conscience. effectivement, on est aussi héritière de ces dynamiques d'archipel des années 70 qui n'ont pas fonctionné dans la mesure où elles ne se sont pas multipliées. Et c'est effectivement ce que pointe Lordon. Après, il n'empêche que ça... Donc pour moi, là, peut-être plutôt à titre personnel, et après je parlerai peut-être plutôt pour Radiaction, je pense que ça reste des sources d'inspiration hyper intéressantes, qu'on retrouve à plein de niveaux, que ce soit dans le dernier Alain Damasio, où je vous spoilerai pas à la fin, mais il est question aussi d'archipel, ou donc un livre de science-fiction, un livre de lutte en fait, qui est extrêmement, extrêmement inspirant, Les Furtifs, si vous ne l'avez pas lu, c'est l'occasion de passer des nuits blanches à bouquiner, c'est plutôt pas mal. Pour moi, dans tous les cas, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi à Radiaction, c'est de se dire à la fois on a un système face auquel on souhaite s'opposer, qu'on doit comprendre, on ne souhaite pas y rentrer, mais par contre on a le besoin de le comprendre, et le comprendre à un niveau très fin, parce qu'on peut pas agir juste en désignant Macron, voilà, on s'oppose à Macron, et puis on va faire chuter Macron, et puis, ah, et puis après il se passe quoi. Enfin, l'idée c'est vraiment d'en comprendre les rouages pour pouvoir les bloquer, je pense que c'est un travail énorme et qu'on est très très loin d'arriver à faire. Et en même temps, si on ne construit pas déjà ce sur quoi, ce qu'on a envie de voir advenir, ou qu'on ne met pas en avant des choses qu'on a envie de, qui sont des sources d'inspiration, que ce soit en France avec la ZAD, que ce soit à l'étranger... avec des modèles qui, par ailleurs, se cassent la figure à cause de la répression, genre le Rojava ou ce genre de choses. Je pense qu'on a besoin d'avoir ces deux fronts en tête et de pouvoir le faire. Nous, à Radiaction, c'est vraiment une question qu'on essaye de mener. Après, c'est pas évident du tout. Mais dès qu'on s'aventure dès qu'on pense au nucléaire, dès qu'on cherche à lutter contre le nucléaire, on fait face en fait à toutes les dérives du système actuel, c'est-à-dire un système centralisé, un système antidémocratique, donc qui s'est opposé à énormément de protestations et qui pour autant perdure et est toujours là, un système encore une fois centralisé que personne ne peut contrôler et qui pour nous empêche de penser la question écologique, empêche de penser comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Et c'est un peu la réponse techniciste, donc quand c'est pas quand c'est pas les réacteurs nucléaires, c'est les champs d'éoliennes qui, en fait, sont une nouvelle stratégie pour accaparer les terres de paysans, que ce soit en France ou à l'étranger. Avec des arguments de et le nucléaire et les éoliennes vont nous sauver. Non, toujours pas. En fait, c'est toujours de l'exploitation des terres, c'est toujours de l'extraction minière, c'est toujours de l'exploitation des peuples, c'est toujours de l'exploitation sociale. Le nucléaire, je crois que c'est 80% des opérations de maintenance qui sont gérés par de la sous-traitance, donc sous-traitance égale contrat de merde, avec des personnes qui ne savent même plus ce qu'elles font, avec une perte de connaissance du système, avec des contrats courts, une précarité de l'emploi, voilà. Et donc, face à ça, nous, la réponse qu'on aimerait apporter, mais c'est une réponse sur laquelle il y a peu de choses, si vous avez envie d'y dédier du temps, d'ailleurs, on est preneurs et preneuses, mais la question de comment est-ce qu'on recentralise l'énergie, pardon, comment est-ce qu'on relocalise, l'énergie, comment est-ce qu'on adapte nos besoins, cette production d'énergie à des besoins, comment est-ce qu'on repense la question des besoins, comment est-ce qu'on met en adéquation une production d'énergie avec un besoin spécifique. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on a vraiment envie de se poser. Et c'est vraiment urgent d'avancer là-dessus, parce que pour moi, c'est une des solutions. Et l'autre chose, c'est tout ce qui est logique qu'on peut mettre en place dans un mouvement, et donc dans notre mouvement. Et là-dessus, je te laisse la parole.
Juste pour conclure, il y a un point en fait, qui me paraît essentiel et en fait, qui nous paraît essentiel. Et là, du coup, je me permets de parler un peu au nom du collectif dans lequel je traîne ma carcasse. C'est précisément qu'il n'y a pas d'écologie à partir du moment où on ne se distribue pas le pouvoir un peu, quoi. Et à un moment donné, on interroge tous les rapports de domination, ou en tout cas, on essaie de les mettre sur la table pour voir ce qu'on en fait. Enfin, en tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire un peu collectivement. Ce qu'on essaye, parce que je pense qu'il ne s'agit pas... moi, je trouve ça super... j'ai l'impression d'avoir déjà vu des situations que je trouve dangereuses, où c'est un peu genre, on déclare qu'on n'est pas dominant entre nous, et tout va bien. Et les mécanismes de domination dans les milieux militants, parfois, ça prend des ampleurs et des vraiment dramatiques. C'est d'autant plus dans la mesure où on dit qu'on combat ces dominations, mais à un moment donné, on combat pas des dominations en disant « Ah, c'est bon, moi, je suis sympa. Moi, je suis un mec, mais je me suis déconstruit, alors je suis sympa. » Et du coup, je pense qu'il y a cette question d'empouvoirment où il faut interroger nos modes de fonctionnement. Et du coup, ça recoupe plein de choses, quoi. Même enfin voilà, sans vouloir trop aller trop loin, parce qu'il s'agit d'y aller pas à pas, enfin même des discussions comme celle-là, je pense que c'est cool dans la mesure où on arrive à sortir de logique tribune publique. Bon, après c'est voilà, enfin je suis quand même content de vous donner mon avis ici, donc il y a pas de, mais je pense que c'est une démarche comme ça où il faut avancer vers plus de pouvoir horizontal distribué, etc., et qui, en se donnant de la force comme ça, que après bah il s'agit de désigner un peu nos ennemis. Je pense que c'est très important de désigner nos ennemis.
Est-ce que y a un consensus parmi vous, et puis peut-être dans la salle, ce serait le moment de vous rendre la parole, mais s'il y a un consensus sur l'idée que la bonne stratégie est finalement, moi, ce que j'appellerais une stratégie de désertion ou de sécession minoritaire, c'est-à-dire l'idée que on commence, nous, par sortir, par faire sécession, avec nos collectifs, avec nos groupes, en sachant qu'on est minoritaire. Et quand même, avec cette idée, je pense qu'on l'a tous, avec cette idée qu'il y a contagion possible derrière ça. Qu'il y a contagion, généralisation, et qu'un jour on sera plus minoritaire, et donc qu'on commence. Et est-ce que ce serait l'objection, moi, que j'aurais envie, enfin, sur laquelle j'aimerais bien avoir des réactions, est-ce qu'on ne peut pas avoir une forme d'aristocratisme militant dans cette stratégie, à savoir qui a les capacités, qui a les moyens matériels, intellectuels, sociaux, d'avoir envie de faire le pas de côté en dehors de ce système et de se dire qu'il a envie de tout lâcher, de construire une contre-société non patriarcale, une contre-société horizontale, égalitaire. C'est un très bel idéal. Encore une fois, il faut qu'on s'interroge sur les réalisations et l'héritage des années 60-70, ce qu'ils sont devenus et pourquoi... la contagion à cette époque-là ne s'est pas produite. L'héritage de Non, mais il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de l'environnementalisme américain, il y a l'histoire de l'autonomie italienne, il y a plein de trucs, quoi. Je veux dire, moi, je trouve que... Voilà, moi, j'ai un peu une objection vis-à-vis de ça, une objection par rapport... je suis vraiment pas... Je veux pas du tout ramener le débat là-dessus, on va pas débattre sur un bouquin et tout. Et je suis pas... C'est la première fois que j'arrive à lire un livre de Lordon, que j'arrive à dépasser la page 30. Donc, je ne suis pas du tout un fan de Lordon, mais ni des thèses qu'il défend dans ce bouquin. Par contre, je trouve que les questions qu'il pose sont essentielles. Et notamment cette question d'une forme, peut-être d'aristocratisme militant inconscient, qui fait qu'on ne se soucie pas de savoir qui peut nous suivre et pourquoi on reste minoritaire, quoi. Et du coup, ce que lui, il oppose à ça, la question du grand nombre. C'est comment est-ce qu'on fait pour toucher le grand nombre qui, c'est pas forcément des salauds racistes, misogynes et tout, mais par contre, l'entrée dans le militantisme par ce biais-là, de fait, il ne touche qu'une catégorie de la population très spécifique, très limitée et aussi assez marquée sociologiquement, il faut bien le dire. Alors, peut-être Léna, si elle voulait réagir.
Il y a peut-être un truc intéressant, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur XR, Damien. Parce que, du coup, Youth for Climate et XR, ça s'est créé à peu près au même moment et avec quand même des principes communs. Et je pense que quand tu... là, nous, c'est au bout d'un an, on commence à avoir des lignes de stratégie nationale qu'on a peut-être envie de garder pendant un moment, mais c'est pas du tout nécessaire. Et j'ai l'impression qu'en en fonctionnement vraiment localement, de manière ultra démocratique, et des fois en se retrouvant entre groupes locaux, c'est pas très compliqué de faire des coalitions entre groupes locaux ou à un moment de se rendre compte qu'il y a un tel consensus qu'on peut avoir une espèce de stratégie nationale, mais ça aurait pas du tout l'imposer par le haut. C'est ça que je pensais. Attends, parce qu'on a parlé de plein de trucs en fait, mais c'est terrible. Genre. Et après, là, c'était la question, c'était oui sur l'inclusivité. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de. Bon, ça peut être une réponse très précise et technique, mais justement qu'il y a besoin de créer des espaces dans lesquels on va pouvoir justement permettre aux gens de se libérer de leur quotidien et de pouvoir militer, parce que là, on se rend compte que malheureusement, si je prends le mouvement jeune, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent pas militer actuellement parce que c'est compliqué, c'est facile de mettre en péril ses études parce qu'on milite. Et au final, on se rend compte que ce serait pas compliqué de créer des endroits où qui sont vraiment très inclusives, qui permettent aux gens peut-être, je sais pas, d'arrêter leur boulot, et de créer, je pense, une culture qui soit assez inclusive pour attirer du monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a en tête actuellement, je pense.
Oui, par rapport à la question, bon, après, le micro va revenir. Je crois qu'il faut intégrer le contexte. Moi, je n'ai pas lu le livre de Lordon, je vais le lire. Bon, il n'a jamais été très sensible hein, aux trucs alternatifs. Hein. C'est pas son histoire politique. Bon, mais absolument. Mais c'est pas ça les années 70. 68, c'était pas du tout un truc d'archipel, tout ça, c'était pas ça. Ça a été le reflux de 70 qui a fait que des gens ont fait des expériences plus locales, etc. Mais au départ, c'était pas du tout une pensée archipélique, chacun dans son petit coin. C'était pas du tout ça. Mais pas du tout. Enfin bon, on pourra en reparler. Et deuxième élément, on était dans une période de croissance. Très peu de gens avaient vu que les 30 Glorieuses étaient terminées et que la grande fête de la consommation et tout ça était terminée. Il y avait quand même la relation au temps, au progrès, à l'avenir, etc. Ça n'avait rien à voir. Là, ce qu'on doit penser, c'est un mouvement dans un contexte d'effondrement. C'est ça qu'on doit penser. Et ça change complètement. Si on n'est pas percuté par ce qui nous est arrivé depuis 40 ans, c'est-à-dire que l'espoir, parce qu'il y avait une adhésion à cette idée de croissance, et même bon, toute la gauche, c'était l'espoir de retrouver les 30 Glorieuses. Ça a duré jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, il n'y est plus cet espoir-là, voire on sait que c'est un poison. Et donc, je crois qu'on est obligé de recontextualiser. Et si je pense que s'il y a aussi autant de jeunes, moi, ce que je dis souvent, c'est que les générations futures, dont on a glosé là-dessus pendant 30 ans, sur les générations futures, développement durable, etc., etc., mais les générations futures, elles sont là. C'est ça qui change. C'est ça qui change radicalement, pour moi, la relation au temps, même, et donc à la relation à l'engagement. Et bon, voilà.
Alors, moi, je suis en train de lire Lordon aussi. Et en fait, donc la critique de Lordon, elle marche à un endroit qui est purement théorique. C'est-à-dire qu'il critique l'ontologie d'Agamben, qui derrière a été très. A influencé beaucoup Tikkun à ses débuts, le comité invisible derrière, lundi matin maintenant, etc. Mais je le trouve totalement à côté de la plaque au niveau pratique. Par exemple. On ne peut pas dire que la ZAD, c'est une désertion, en fait. Malgré tous les conflits, etc., qu'il y a, ça a été, en fait, une lutte très massive qui, à l'endroit d'un territoire précis, a fait qu'il y a plein de gens qui se sont posé la question sur ça veut dire quoi qu'il y ait un nouvel aéroport qui se situe là, sur notre territoire. Ça pose énormément de questions à l'endroit de que faire des terres agricoles. Encore maintenant, il y a tout un tas d'enjeux à récupérer ces terres-là agricoles pour qu'elles ne soient pas données à l'agrandissement. Sur les questions forestières et aussi sur les questions, d'habitat. Et en fait, en pratique, il y a énormément de gens qui habitent sur la ZAD, qui ont occupé cet endroit-là, qui y sont encore. Et c'est les premiers à aller sur les luttes pour aller aider des gens qui vont squatter à Nantes parce qu'ils n'ont pas de papier, qui vont être sur les luttes de gilets jaunes, etc. Et du coup, la question, pour moi, déjà, on ne peut pas dire que les ZAD, ni celle-là, ni le grand contournement de Strasbourg, ni Roibon, ni quoi, sont des zones de Nibur, ce sont des zones de désertion, mais c'est plutôt pour moi des points de force qui se relient les uns avec les autres et qui créent des endroits où des gens vont pouvoir se politiser et depuis où ça va être toujours des forces vives pour aller sur d'autres types de mouvements qui sont plus peut-être de l'ordre de mouvements plus massifs qui créent un rapport de force avec l'État.
Juste un tout petit truc, il dit pas que c'est des zones de désertion, mais des zones qui procèdent d'une désertion, et il se demande à qui cette désertion est accessible socialement.
Ça, je pense que elle s'adresse peut-être à une partie de gens qui effectivement ont bien conscientisé le truc et ont les moyens intellectuels, matériels, avec des parents derrière qui au pire les ramèneront tout ça, mais elles s'adressent aussi à des gens bien paumés, bien arrachés, qui se retrouvent là et qui n'ont pas du tout de moyens. Et en fait, c'est tout de même des luttes qui, comme il disait, sont pas hors sol, qui à un moment s'adressent aux problèmes tels qu'ils sont à des vrais endroits et question de la vie, en fait, comment elle peut se passer au quotidien, quoi. Et si on n'a pas ça, mais on vrirait complet, quoi. C'est...
Enfin... Il y a des municipales dans 4 mois. Dans toutes les communes. Peut-être s'en occuper.
Sur ces questions d'inclusivité, il me semble que c'est important, comme ça a été dit un peu au début, de poser la question de qui on est. Enfin, c'est qui nous, qui sommes à XR, à Radiaction, à je sais pas trop. Et du coup, de se demander dans notre collectif quelle place on a envie d'occuper dans ce milieu militant. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas XR qui va mettre la masse dans la rue. Enfin, je sais pas, mais si on a l'impression que la stratégie globale autour de laquelle on a tous envie de s'allier, c'est attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire détruire cette structure sociétale oppressive. Ben, c'est pas c'est la masse qui peut le faire, et cette masse-là, elle sera pas dans la rue parce que XR ou parce que Radiaction ou parce que je sais pas trop quoi. Et du coup, j'ai l'impression que si on fait ce constat-là, que c'est pas nous nous qui sommes là à lire leurs dons, à être ici aujourd'hui, à avoir du temps et en fait à se donner le temps, mais aussi quel rôle on a, et est-ce que c'est nous qu'allons faire mettre la masse dans la rue? Pour moi la réponse est non, mais du coup, quelle place on a envie d'occuper? C'est on prend le temps, on essaye ensemble de construire des outils qui, à nos yeux, peuvent être utiles dans un moment où la masse est dans la rue. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et par exemple, enfin, c'est incroyable. C'est pas les intellos qui ont mis les gilets jaunes dans la rue. Pourtant, il y a eu un moment où, l'hiver dernier, la masse était dans la rue. Enfin, et du coup, ce milieu militant gauchiste, il a vu la masse descendre dans la rue. Et la question, c'était comment apporter des outils à cette masse-là, en fait. Et moi, ce que je vois, c'est par exemple cette dynamique dont vous parliez des maisons des peuples. C'est incroyable de dire, tout d'un coup, là, on a besoin de lieux pour se réunir. Et donc, un peu partout en France, il y a des collectifs initiés par des Gilets jaunes, mais qui réunissent parfois plein d'autres organisations, collectifs et associations, pour squatter des bâtiments et pour pouvoir s'y organiser. Et donc, c'est incroyable de dire, là, tout d'un coup, c'est hyper utile qu'il y ait des gens qui, depuis des décennies, ouvrent des squats partout et qui, là, puissent apporter cette compétence-là, en fait, et se réunir des semaines à l'avance, faire des repérages, trouver un endroit, ouvrir un squat, puis, en fait, tout ce que ça implique derrière, tu vois, c'est des choses énormes. Et donc, vraiment, et je suis d'accord aussi avec ce que vient de dire la copine sur, c'est créer des lieux d'ancrage et créer des endroits où ces compétences-là, elles se partagent. Mais, juste se poser la question, désolée, j'étais longue, se poser la question de qui on est et à quoi on sert, en fait, et être un peu humble aussi sur nos envies de mettre la population dans la rue, quoi. J'ai l'impression que c'est pas nous qui allons le faire.
Moi, je veux juste, je veux prolonger ce qu'ont dit les deux camarades. En fait, je ferai pas d'opposition stricte entre déserter entre guillemets et contraindre l'État. Je pense dans une certaine perspective stratégique, oui. D'ailleurs, il y a, je reviendrai là-dessus juste après. Mais sinon, ouais. Déjà, je ferai pas non plus d'opposition stricte entre des choses qu'on a opposées dans les dernières présentations, à savoir entre des intellos, des militants spécialisés et la masse, ou entre ceux qui habitent sur les ZAD et ceux qui habitent pas sur les ZAD, etc. Enfin, d'autant plus que dans l'année qui vient de s'écouler, là, je pense que avec les gilets jaunes et d'autres choses, tout ce petit monde s'est énormément mélangé. J'ai pas eu le sentiment d'une supériorité, d'une avant-garde quelconque. Enfin, l'espèce de défiance très profonde des gilets jaunes vis-à-vis de toute forme d'élitisme a fait qu'on s'est tous un peu mis au même niveau. Et ce mélange, il est opérant. Donc, et je vois pas en quoi il y a un élitisme de la désertion
qui bloquerait quelque chose, d'autant plus que, comme l'a dit la camarade, sur la ZAD ou d'autres endroits, ou dans les squats, c'est aussi des gens qui sont en galère, qui développent une pensée politique en cours de route ou qui l'ont avant, peu importe, mais c'est pas, je pense pas qu'il y ait un élitisme profond là-dedans. Et ensuite, oui, il y a la question de une autre opposition que je voudrais juste qu'on fasse pas, c'est entre entre stratégie et habitation. C'est-à-dire que si on choisit de vivre dans un squat, sur une ZAD ou de mettre, ou plein d'autres choses, ou d'essayer de mettre en place des modes de vie alternatifs, etc., on est pleinement légitime à le faire en tant qu'habitant, habitante de ce monde, quoi. Enfin, il y a pas forcément à se dire, mon Dieu, c'est pas la bonne stratégie. On peut le faire aussi parce que c'est sincère, parce que c'est là qu'on va essayer des choses, etc. Tu as dit tout à l'heure aussi, mais que c'était élitiste dans la mesure où il y aurait pas de transmission vis-à-vis d'un public plus large.
Je me suis demandé si.
Ouais, tu t'es demandé si. Et c'est un excellent point. Et il me semble que là aussi, il y a énormément ce souci de la transmission quand même. L'exemple de la ZAD était très bon avec le soutien qu'on apporte, avec, que je ne sais plus comment ça s'appelle, la cagette des terres, voilà, le soutien alimentaire qu'ils apportent au rond-point gilet jaune, aux camarades en grève, etc. Enfin, le souci du décloisonnement des initiatives qui peuvent sembler un peu utopiques et isolées, il est très fort. Et comment on transmet tout ça? Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a une opposition frontale entre les deux. Et je termine juste sur ce que dit justement David Harvey, je sais pas si vous connaissez du coup le géographe marxiste, qui lui examine d'un point de vue stratégique justement les limites de l'autonomie, quoi. Alors il appelle pas ça la désertion, mais il appelle ça, c'est toujours cette idée d'archipel des autonomies, quoi, qui serait pas suffisant parce que même au Chiapas, même au Rojava, on n'arrive finalement pas à faire reculer le néolibéralisme. Et il préconise finalement l'alliance des autonomies avec des mouvements qui contraindraient fortement l'État, non pas des mouvements réformistes, mais des mouvements qui viendraient arracher à l'État des nouveaux droits pour protéger, généraliser de nouvelles façons d'habiter, de produire, de protéger le commun. Et cette alliance, finalement, est-ce que dans les Gilets jaunes, on n'a pas déjà un prototype de ça, quoi, entre alliance de l'habiter, de l'autonomie, de se réapproprier l'espace public, mais aussi la terre, les ronds-points, etc. Et oui, mais on n'est pas là pour se replier, quoi. On est là pour attaquer l'État à partir de nos zones autonomes.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je crois que Damien et Geneviève voulaient réagir, mais voilà, s'il y a... on est en plein dedans, j'ai l'impression. C'était le troisième point, on est rentré dedans sans transition et sans prévenir, mais sur l'articulation entre les luttes sociales et les luttes climatiques.
Pour réagir sur l'aristocratie militante, moi je pense que ça existe. C'est notamment toute la stratégie du comité invisible pendant des années de planifier l'insurrection. Et en fait, quand l'insurrection est arrivée avec les Gilets jaunes, personne n'était là. Mais ce n'est pas les seuls, c'est un peu tout le monde. Comme tu disais, quand c'est arrivé, on a été un peu surpris. Et pour la plupart frileux, je pense, on se demandait ce que c'était ce truc. Moi, je te rejoins totalement sur ça, sur la niveler par le bas les mécanismes de domination, éviter de planifier, d'être dans une position un peu dominante de planification de l'insurrection et fournir effectivement des supports concrets. Parce que moi, ce que je remarque là, depuis que j'habite en squat, c'est que la lutte, c'est très concret. Et quand tu as besoin de banderoles et que tu as pu en trouver dans la rue, et parce que tu vas la nuit dans les déchetteries ou dans la rue pour chercher de la banderole pour la stocker chez toi, et que quand il y a des potes qui viennent et qui te demandent une perceuse ou une visseuse ou de la banderole pour faire une action, tu l'as parce que c'est très concret, quoi. Et pour finir sur... pour repartir sur peut-être le point, pour recadrer peut-être sur l'articulation des luttes sociales et écologiques, nous, ce qu'on a voulu faire avec Italie 2, c'était... je me permets de parler de cette action pour un peu contextualiser le truc. Mais on a écrit une tribune qui est sortie juste avant, et en fait, c'est ça qu'on a voulu dénoncer, quoi. C'est les mécanismes de domination, l'ordre social du capitalisme, en fait. Enfin, l'ordre social que le capitalisme nous impose. Et du coup, on a dénoncé à peu près tous les mécanismes de domination. On a essayé d'avoir une représentation des différents collectifs qui dénoncent ces mécanismes de domination au sein de l'action pour allier lutte sociale et lutte écologiste. Mais je me suis un peu éloigné du sujet. Je pense, j'ai pas fait de transition non plus, du coup, vu qu'il nous reste peu de temps. Mais voilà.
Ouais, je crois que c'est antérieur au capitalisme. La séparation des luttes sociales et des luttes écologiques. Non, mais Oui, mais la séparation de ce qui est de l'ordre du social et qui serait de l'ordre de l'écologique, ça on l'hérite aussi d'une culture qui a séparé nature et société, nature et culture. Il y a les questions écologiques, il y a les questions sociales. Le côté subversif de ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que ce n'est plus possible, parce que l'écologie, c'est quoi ? C'est ce qu'on mange. Or, ce qu'on mange, c'est toute une production qui est... Bon, je ne vais pas faire un dessin. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit. C'est où on habite, c'est comment on se déplace. C'est-à-dire que l'écologie, c'est des questions sociales. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on arrête même de le poser, pour ma part, hein, en termes de faire rencontrer l'écologique et le social. Mais ce n'est pas nous qui vont faire rencontrer, converger. Mais c'est le réel qui converge. Ou alors on fait de l'écologie, un environnement, les petits arbres, tout ça. Mais l'écologie, au fond, c'est quoi ? C'est notre manière d'habiter et donc de, encore une fois, nous nourrir, bon, tout ça. Et donc, si on pose des questions ainsi, je pense que c'est plus de la convergence, parce que c'est quoi la convergence ? C'est on met un peu des luttes sociales, on va faire converger les syndicats et des écologistes, et chacun reste sur son truc. Non ! C'est comment on est bousculé dans nos pensées, comment, y compris notre façon d'envisager la société, est bousculée parce que nous vivons de ce qui est du détraquement de la terre, etc. Voilà pourquoi je crois que, justement, bon, moi, je ne veux pas revenir sur le livre de Lordon ou d'autres, mais la question qui nous est vraiment posée et que moi je trouve subversive dans la manière de l'aborder, y compris par rapport aux années 70, c'est que c'est de plus en plus, comment dire, c'est l'intersection, voilà, c'est pas la convergence, c'est l'intersection. C'est l'intersection des luttes. Et que cette intersection, c'est même pas parce qu'on la veut, c'est pas notre toute-puissance et notre programme révolutionnaire, c'est que cette intersection, elle intervient dans les faits, dans le concret, à condition qu'on veuille bien se confronter au concret. Donc je pense que... Et ça, moi, ça me paraît très porteur. Je suis plus, je pense, là, je me sens décalée, parce que je suis plus âgée, ça se voit, et que je pense que l'émergence, que c'est très bien que les gens qui sont dans les mouvements aujourd'hui, vraiment acteurs, acteurs, initiateurs, etc., qu'il y ait ce regard critique immédiat. Au bout de 6 mois, on commence à faire l'analyse critique, on va pas complètement fossiliser hein, ces mouvements en ayant fait... Bon, ça, c'est très bien. Mais il faut quand même pas oublier qu'on est quand même devant des heureuses nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a un surgissement du mouvement climat, qui n'était pas prévu, personne n'avait prévu non plus, ni les grandes ONG, ni... Il y a un surgissement. C'est pas en France, c'est partout. Et en France, il est assez faible par rapport à ce qu'il est ailleurs. Ça aussi, il faut se questionner pourquoi. Quand je vois ce qui s'est passé pour les manifs climat, enfin les marches climat dans d'autres pays, bon, il est relativement faible, moins ancré, justement. Donc peut-être qu'il faut aussi... Mais c'est quand même la bonne nouvelle. Et que je suis plus, non pas que je veuille faire du positif à tout prix, mais je suis plus bienveillante par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est un processus. C'est un processus. Si on croit qu'on va foutre en l'air le capitalisme, hein, parce qu'il y aura une occupation d'extinction, rébellion qui sera avec 5000 personnes ce coup-ci, eh bien non. Voilà. Hein, c'est bon. En revanche, c'est un processus, oui. C'est un processus, et un processus qui en partie nous échappe. Parce qu'il va y avoir des événements qui nous échappent et qui vont faire que l'histoire va s'accélérer. Et que c'est là que c'est important qu'il y ait toutes ces expériences qui foisonnent un peu partout. Parce qu'au moment où l'histoire s'accélère, s'il n'y a pas tout ça, eh bien l'histoire elle est faite par des élites, effectivement. Et donc c'est en ce sens-là que c'est très très important. Moi je ne crois pas du tout au truc par capillarité, c'est-à-dire on fait des expériences et petit à petit le capitalisme va être rongé, je ne crois absolument pas. En revanche, il va y avoir des moments où ça s'accélère, hein, comme bon voilà, au Chiapas, ça s'accélérera à des moments, bon bref. Et c'est là qu'il faut qu'on soit prêt.
Juste... Petit mot de conclusion, ouais, parce
ouais,
que...
Ouais, non mais je sais, il y a la maîtresse de cérémonie qui va nous emmerder, engueuler. Pardon, engueuler, c'est ce que je voulais dire, désolé. non, bah alors peut-être c'est pas une conclusion, mais peut-être quelque chose qui est pas du tout apparu dans les, enfin qu'on n'a pas forcément dit. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, se confronter au concret. Enfin, pour moi, quand on peut parler de un élitisme activiste ou je ne sais quoi, je pense que c'est aussi qu'on ne regarde pas forcément au bon endroit et qu'on n'est pas forcément au bon endroit non plus. Et que moi, il y a des choses qui me donnent énormément d'énergie quand je regarde ailleurs, ce qui m'arrive pas tout le temps non plus, parce que je veux bien faire mon autocritique et je pense que je suis dans mon milieu comme tous et toutes. Mais par exemple, un truc qui récemment m'a donné de l'énergie, c'est le collectif Romain Rolland. Donc un collectif qui s'est monté à la suite d'une répression énorme de lycéens à Ivry, alors qu'ils manifestaient et qu'ils bloquaient leur lycée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pour lutter contre Parcoursup. Et ils se sont pris une répression, mais vraiment dingue, avec un jeune à peine majeur qui a un procès, qui est en procès d'ailleurs aujourd'hui. Petite pensée pour lui. Un autre jeune qui s'est fait interpeller de manière ultra-violente alors qu'il avait grillé une priorité à la police. Et ce collectif-là s'est monté tout seul, en fait. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui se sont organisés, des jeunes lycéens, pour beaucoup racisés, de banlieues parisiennes, pas forcément de milieux plutôt populaires, et avec le soutien de 4 profs et 2 parents d'élèves, ils se sont montés en collectif, ils communiquent, ils se rassemblent, ils font venir une Assa Traoré, ils font venir une Fatima Wassak, et en fait, ils luttent, quoi. Ils luttent et ils s'organisent, et ils mettent en application des choses que nous aussi, on nommerait... même écologie populaire, pas forcément écologie, mais en tout cas lutte populaire, clairement. Et après, clairement, on n'est plus dans les années 70. Pour moi, les cabanes de gilets jaunes, c'est aussi des luttes localisées, mais qui se communiquent entre elles et qui sont reliées, en tout cas, chose qu'on n'avait pas forcément à un autre moment. Et pour tout ça, moi, c'est vraiment ce que je pense qu'on aimerait aussi porter, c'est le fait d'aller dans notre lutte, d'être présent, d'être des bons ou bonnes alliés avec toutes les dérives que ça peut avoir, mais justement de prêter attention et d'être plutôt dans une stratégie d'alliance ponctuelle avec des personnes qu'on aura appris à connaître, avec des luttes qu'on aura appris à connaître, à soutenir et avec lesquelles on pourra lutter sur des fronts communs, pas forcément dans l'optique d'une énorme convergence où on sera tous et toutes des bisounours à lutter ensemble, mais plutôt ponctuellement faire des alliances sur des points concrets. C'est à mon avis comme ça qu'on pourra avancer.
D'accord. Eh bien, donc je vais clore alors. On m'avait dit, oui, 19h20. Ben, merci. Non, c'est moins force. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Et puis, je pense qu'on peut poursuivre la discussion pour tous ceux qui en ont envie dans la salle d'à côté. On sera tous là.
XVIIe édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Felipe 2019.